des États-Unis, d'Asie, enfin bref, pour importer, d'Algérie, pour importer du gaz. Pourquoi construire ces usines qui sont chères, alors que nous avons la possibilité de recevoir, non seulement de nous raccorder à, mais de recevoir chez nous les grandes extrémités du réseau gazier russe. Et une anecdote est toujours intéressante de ce point de vue-là. On se souviendra peut-être de Joschka Fischer. Joschka Fischer qui était le ministre des Affaires étrangères et le leader du Parti Vert d'ailleurs. Et tous ceux qui ont eu affaire à lui, moi j'ai vu une ou deux fois, mais beaucoup d'amis, de relations, de collègues l'ont vu très souvent. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'était l'homme le plus délicieux, le plus charmant, le plus courtois qu'on puisse imaginer. Et dans le fond, il ne perdait ses nerfs qu'à une seule occasion, c'est quand on lui demandait, quand on lui posait la question que vous posez, c'est pourquoi est-ce que l'Allemagne dépend que de la Russie pour le gaz ?
Cette question, la classe politique allemande, dans son ensemble, se l'est prise en pleine figure au déclenchement de la guerre en Ukraine. 55% de son gaz venait de Russie et l'Allemagne, pour le chauffage des ménages, mais aussi pour son industrie chimique notamment, est un très gros consommateur de gaz. Or, cette crise se charge de nous redémontrer que l'énergie, ici en l'occurrence le gaz, mais ça a été le cas pour le charbon et le pétrole avant cela, l'énergie donc est un bien stratégique qui peut être mobilisé à des fins politiques et Vladimir Poutine ne s'en prive pas. Mais si vous suivez attentivement les données de cette crise, vous vous dites peut-être que, ok, l'Allemagne est très dépendante du gaz russe, tout comme d'ailleurs bon nombre de pays de l'Est de l'Union européenne, mais ce n'est pas notre cas à nous, en Belgique. Nous n'importons quasiment pas de gaz russe, et pourtant, nous sommes tout autant victimes de la flambée des prix, du gaz, mais aussi de l'électricité. Et cela, pour Jean-Pierre Hansen, c'est lié au deuxième grand problème, un choix politico-économique posé par les Européens il y a une vingtaine d'années.
Au tournant du millénaire, hein, vers 2000, la Commission d'abord, et puis les États européens de l'Union européenne ensuite, ont donné une sorte de primat au marché. Le marché devait tout résoudre, tout le temps et pour tout le monde. Alors, je sais bien qu'en 1957, quand on a créé l'Union européenne, quand on a signé le traité de Rome, on a dit que l'économie de marché était le moteur le plus puissant de l'efficacité économique, voire le seul. C'est vrai. Et je suis partisan de cette manière de voir. Sauf qu'il y a un certain nombre de secteurs pour lesquels le marché seul ne peut pas résoudre précisément tout le temps et pour tout le monde. Il y a des biens qui sont des biens stratégiques et il y a des biens qui sont des biens de service public. Il se trouve que l'énergie, c'est les deux, service public et stratégique. Et donc, le fait de tout confier au marché a été une erreur essentielle qui a multiplié les impacts d'une crise d'énergie.
Une erreur historique, donc, pour Jean-Pierre Hansen, mais aussi pour de plus en plus de dirigeants actuels qui constatent impuissants comment ce marché en pleine flambée incontrôlable les plonge dans des difficultés majeures. Pourtant, beaucoup de pays, dont la Belgique à l'époque, à la fin des années 90 et au début des années 2000, étaient convaincus que confier l'électricité et le gaz au marché était le bon choix.
Le gouvernement de l'époque, celui de M. Verhofstadt, a été un grand défenseur de cette manière de voir, tout par le marché. Bon. Incidemment, d'ailleurs, les partis qui étaient au pouvoir à l'époque sont à peu près les mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce qui parfois me fait sourire quand j'entends certaines déclarations. Mais, évidemment, vous allez me dire, il y a 22 ans de tout ça.
Sinds maart blijft ons land onafgebroken. Voor het feit dat er interventies moeten komen in de gasmarkt.
Piquant, du coup, de constater qu'aujourd'hui, le Premier ministre, lui aussi, OpenVLD, comme Guy Verhofstadt il y a 20 ans, plaide depuis des mois pour une régulation forte de ce marché européen.
Je ne cesserai d'enfoncer le clou tant que ce sera nécessaire. C'est maintenant que l'Europe va montrer qu'elle est capable de protéger ses citoyens, de protéger ses entreprises. Point à la ligne.
Si je résume, donc, pour Jean-Pierre Ansen, qui a dirigé pendant près de 20 ans la plus grande entreprise énergétique du pays, les Européens ont commis une double erreur. D'abord, en oubliant la dimension géostratégique de l'énergie et en mettant beaucoup d'œufs dans le même panier, grave erreur que Vladimir Poutine est en train de leur rappeler très douloureusement. Et puis, deuxièmement, en laissant aux pures lois du marché la fixation des prix du gaz et de l'électricité pour tous les consommateurs, industriels comme particuliers. C'est de la naïveté des Européens ?
Alors je dirais naïveté pour le premier point que vous dites, c'est-à-dire la diversification des sources d'approvisionnement, et je dirais par contre aveuglement pour l'autre point. Aveuglement. On n'a pas voulu, malgré toutes les erreurs que les professionnels, en tout cas beaucoup d'entre eux, identifiés depuis une vingtaine d'années, les services de la Commission n'ont pas voulu améliorer, changer, modifier le paradigme qu'ils avaient choisi. Mmh. Ouais. Aveuglement.
Et vous expliquez comment cet aveuglement, vous qui avez quand même été, vous avez suivi ça de près, comment expliquer qu'alors que des gens ont tiré la sonnette d'alarme en disant non, le gaz, l'électricité, on ne peut pas les soumettre à ce point-là et totalement au marché, que la Commission ait décidé quand même d'y aller?
Notez d'abord que quand vous dites des gens ont tiré la sonnette d'alarme, oui, des gens, mais pas tous. On évoque aujourd'hui les factures exagérées, et c'est le cas, pour l'industrie. Mais l'industrie, à l'époque, en année 2000, était très, très, très favorable au prix de marché. Hein. Il disait, tous les grands industriels, y compris la FME d'ailleurs, plaidaient deux choses, je vais le dire jusqu'au bout, plaidaient le primat du marché partout, et notamment en Belgique, et plaidaient le démantèlement des grandes compagnies de gaz et électricité. Hein. Donc pourquoi ? Parce que beaucoup de gens pensaient que le marché allait résoudre ça. Donc je crois que beaucoup de gens ont été aveuglés.
Des grandes entreprises qui aujourd'hui se mordent sans doute les doigts puisqu'elles sont, comme les particuliers, victimes de cette crise, à commencer par les gros producteurs industriels gourmands en énergie.
Ah ben, nous sommes avec des coûts variables qui sont x10.
Il est clair que dans les conditions actuelle, nous devrons prévoir des arrêts d'usine. On ne peut pas tolérer une situation comme ça encore pendant de longs mois.
C'est-à-dire que la facture d'énergie électrique va être pour une activité normale deux fois le coût de la main-d'œuvre. C'est impossible.
Tous, gouvernements, particuliers, entreprises, crient au secours et appellent à des solutions pour encadrer ce marché de l'électricité devenu fou. Mais avant de parler solutions, j'ai encore envie de rester un instant sur les raisons de cet affolement des cours. Avec une question en particulier, celle de la responsabilité des spéculateurs. On l'entend dire de plus en plus, c'est à cause de la spéculation si les cours s'envolent à ce point. Alors ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que sur les marchés, des fonds spéculatifs achètent et revendent en effet du gaz et de l'électricité en espérant gagner de l'argent et profiter des prix stratosphériques du moment. Mais faut-il pour autant juger que c'est à cause des spéculateurs que nous en sommes là ? Réponse de Jean-Pierre Ansen.
Mais je ne sais pas très bien ce qu'on entend par spéculation. J'ai entendu ça, spéculation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on regarde aujourd'hui, par exemple, le prix d'électricité qu'on s'attend à payer pour le début de l'année 2023, 1000 euros, hein, un peu, même 1000 euros par mégawattheure, c'est évidemment terrifiant comme prix, ouvrez les guillemets, de marché, alors que, par exemple, le coût de production de l'énergie nucléaire, ça tourne autour de 50 euros, pour faire court. Hein, voilà. Et le prix la production du prix du gaz, c'est 150 euros. Alors, c'est quoi les 1000 et plus euros qui anticipent l'année prochaine ? C'est précisément ça. C'est l'anticipation d'une crainte de ne pas avoir d'approvisionnement. Ce qui est évidemment explicable. Hein. On peut très bien imaginer qu'à partir du moment où l'Allemagne décide de fermer son parc nucléaire, de fermer progressivement son parc de centrales au charbon, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas. Elle doit revenir sur sa décision pour des raisons évidentes. Mais elle avait décidé. Un peu la même chose en Belgique. Un peu aussi le fait que la France a un parc nucléaire qui, pour l'instant, ne tourne pas bien. Il ne tourne que, grosso modo, à moitié. Il y a donc des anticipations qui font que des gens sont prêts. Le marché, c'est-à-dire la rencontre offre et demande, est prête à payer 1000 euros. Est-ce que c'est une spéculation ? Oui, peut-être, mais c'est surtout une anticipation.
C'est une sorte de spéculation au sens premier du terme. On spécule le fait que peut-être il n'y aura pas d'énergie, donc on est prêt à acheter extrêmement cher.
On spécule sûr. On ne spécule pas, mais on spécule sûr. Oui, tout à fait.
Et comme on est dans une logique de marché, eh ben justement, ça peut faire monter les prix extrêmement élevés. C'est ce qui souligne, selon vous, Jean-Pierre Ansen, que ben justement, peut-être il ne fallait pas confier l'électricité au marché. Pour vous, on en a aujourd'hui une illustration flagrante ?
Flagrante, et en tout cas, il ne fallait pas la confier de cette manière-là.
Bon, ok. Pour Jean-Pierre Ansen, donc, ce ne sont pas tant les spéculateurs qui sont à blâmer, mais la dynamique de marché qui aujourd'hui pousse à la spéculation. Et le problème, c'est que des biens comme l'électricité et comme le gaz offrent un terrain facile à cette spéculation, surtout dans des moments comme ceux que nous vivons aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, on l'a déjà évoqué un peu plus tôt dans cette émission, parce que ce sont à la fois des biens de service public, mais aussi des biens stratégiques, qui peuvent donc être utilisés comme des armes dans des conflits comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a d'autres caractéristiques propres à l'électricité en particulier qui la rendent encore moins compatible avec une pure logique de marché, selon beaucoup de spécialistes. Le fait, d'abord, que l'on soit dépendant d'une interconnexion réseau, ce qui veut dire qu'on ne peut pas décider tout à coup d'aller acheter de l'électricité à l'autre bout du monde, ce qui est possible, par contre, pour d'autres marchés.
Puis alors, il y a l'autre caractéristique de l'électricité fondamentale qui est qu'elle n'est pas stockable. Elle ne se stocke pas. Si vous y réfléchissez un instant, c'est le seul bien ou le seul service, comme on veut, qui ne se stocke pas une seule seconde. À chaque moment, maintenant où on parle, il est 8h34, eh bien, entre 8h34 et 8h34 et demie, il faut que la somme des puissances de production qui sont disponibles là, ici, soit égale à la somme des demandes. Sinon, vous avez des problèmes de blackout. Et ça, c'est une originalité quand même qui conduit d'ailleurs à faire en sorte que les prix de l'électricité, quand il y a un marché, sont les plus volatiles du monde. Si vous m'autorisez une anecdote en 3 secondes, dans les années 92-93, je me souviens très bien, avoir été invité au congrès, au colloque des utilities américaines à Phoenix, j'en m'appellerai très bien. C'était donc avant le grand mouvement de